Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire simplement un petit mot pour Martine, parce que c'est vrai que Jean-Pierre, il a rendu un hommage parfait. Franchement, c'était exactement ça. C'est vrai que Martine, malgré ses outrances, moi, elle nous manque déjà. Et c'est vrai que ce matin, j'aurais rajouté quand même une chose. Hein, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très persévérant, mais en plus, c'est quelqu'un qui avait un cœur en or. Franchement, moi, j'ai vu plusieurs fois devant des gens en souffrance, eh ben, elle était capable de donner même le peu qu'elle avait. Et c'était certainement quelque chose que j'aurais même pas fait moi-même. Elle était capable de le faire. Voilà. Frères et sœurs, bah déjà bonjour. Et puis, j'espère que vous allez bien. Et je prie Dieu pour qu'il ouvre à chacune, chacun ce matin, et nos cœurs et nos oreilles, car le thème que nous allons aborder nous concerne particulièrement, c'est l'amour du prochain. Alors c'est vrai, il s'agit d'un sujet très très vaste, que je vais traiter en une demi-heure chrono. Je vais essayer, parce que Jean-Pierre m'a dit « tu dépasses pas, sinon je coupe le micro ». Donc j'espère que personne ne quittera cette salle frustré, mais au contraire rempli du désir d'aimer son prochain. Alors, je ne sais pas si, comme moi, ce matin, vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression que dans ce monde qui se déchristianise de plus en plus, nos sociétés ont remplacé l'amour de Dieu par soit une certaine indifférence, soit une haine profonde. L'apôtre Paul, dans son premier chapitre de la lettre aux chrétiens de Rome, écrit ceci. Comme les hommes n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, eh bien il les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qui ne doit pas se faire. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchancetés, d'envie et de vices, ils sont pleins de jalousie, de meurtres, de querelles, de trahisons, de perversités. Ce sont des gens médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal, ils manquent à leur devoir envers leurs parents, ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, ils sont insensibles et impitoyables. Quelle suite de mots terribles, hein ? Eh bien, ce passage de l'Épître aux Romains décrit parfaitement la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui fait peur. C'est une société qui fait peur. On croirait lire la une d'un quotidien actuel. Cette société mondialisée a totalement rejeté Dieu, ses commandements et surtout l'amour du Christ. Elle offre donc un spectacle affligeant et porte en elle-même les fruits de ce que l'a semé. Alors, ce qui est à la fois étonnant et contradictoire, c'est que les gens de ce monde sans Dieu pratiquent de plus en plus le mal, dégradant ainsi la société dans laquelle ils vivent, mais en même temps, ils réclament davantage d'autorité, ils réclament davantage d'amour, de paix, de solidarité, et même de sécurité. Vous voyez, c'est sur cette petite bande dessinée, c'est le cas de cet homme qui insulte tout le monde dans sa voiture, mais qui veut que sa fille parle correctement en classe. C'est quelque chose d'incroyable. Le péché qui habite chaque être humain est un véritable cancer qui avilit l'homme et le rend aveugle aux réalités spirituelles qui l'entourent. Frères, sœurs, tout bon prédicateur qui se respecte et respecte son auditoire dirait à ce moment précis, ce monde pécheur dans lequel nous vivons n'est pas du tout le monde que Dieu a voulu. Loin, loin de là. Bien au contraire, en disant « tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jésus a voulu remettre au centre de ce monde, au centre de nos vies, l'amour de Dieu et faire entrer une part de déité dans cette humanité perdue, en réactivant l'amour pour l'autre. Un jour, un enseignant de la loi se leva et dit à Jésus « je veux te poser une question ». C'était un peu quand même pour l'éprouver. « Maître, lui dit-il, d'après toi, quel est le plus important des commandements de notre loi ?» Jésus lui répondit, « bien sûr, c'est celui qui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute la force de ton esprit et de ton cœur. Mais il y en a un autre qui est aussi important que celui-là, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'enseignant de la loi, voulant se donner bonne raison, reprit, oui, oui, maître, mais qui est donc mon prochain ? Et c'est une question vraiment importante et intéressante de savoir qui est le prochain. Alors en retour, plutôt que de lui donner une longue réponse théologique, eh bien Jésus lui proposa une parabole, une petite histoire. Il lui dit, écoute bien cette histoire. Sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, se trouvait un homme qui marchait seul. Cet homme fut attaqué par un groupe de brigands, et ils lui arrachèrent ses vêtements, ils le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Vous voyez, nous sommes bien dans ce monde insécure décrit plus haut. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin que l'homme avait emprunté. Il vit l'homme mourant et s'en écartant, poursuivit sa route. Alors c'est vraiment non-assistance à personne en danger. C'est grave, et surtout quand on est un homme de Dieu. De même aussi, un lévite, c'est-à-dire un descendant de la tribu de Lévi, chargé de l'entretien du sanctuaire, passa au même endroit, vit le mourant et s'en écarta. En réalité, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il lévite. Oui, jeu de mots. Non, mais je précise parce que peut-être vous n'avez pas compris. C'est la réalité de ce monde qui fuit ses responsabilités. Or, un Samaritain qui voyageait et passait par là, arriva près du mourant. En le voyant, il fut pris de pitié pour lui. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Cet étranger pourrait faire comme les deux hommes précédents, hein, s'écarter et passer à côté. Il n'a rien à gagner dans cette affaire. Il a pitié, son cœur l'interpelle, il prend lui ses responsabilités. Il chargea l'homme mourant sur sa propre mule et poursuivit le chemin à pied. Alors le blessé qui était à terre était un juif, qui était ennemi des Samaritains. Il se dit en lui-même, « Peu importe, cet homme est mourant. Si j'étais à sa place, eh bien j'aimerais qu'on vienne à mon secours. » Quel cœur de compassion ! Quelle compassion puissante anime cet homme ! Il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Ce Samaritain s'est investi totalement dans son acte compassionnel, comme si cet homme qui était mourant était son propre fils. Jésus, reprenant la parole, ajouta « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» Alors, vous l'avez remarqué, Jésus ne demande pas à l'enseignant de la loi « Qui était le prochain ?» Mais « Qui s'est montré le prochain de cet homme ?» Qui s'est montré le prochain de cet homme ? Qui a pris la décision de s'approcher de l'homme mourant ? Et là, il veut interpeller l'enseignant de la loi et à travers lui, ben nous-mêmes. C'est celui qui a eu pitié de lui, répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, dit Jésus, va et agis de même. Alors, vous voyez, cette parabole, comme bien d'autres, elle peut se lire à différents niveaux. Hein, celle-là, tout le monde la comprend, c'est simple. Mais j'aimerais vous montrer un autre niveau ce matin. Dans cette parabole dite du bon samaritain, on découvre trois personnages qui s'activent autour d'un homme agressé et mourant qui gît au sol. Symboliquement, cet homme attaqué par un groupe de brigands, dévêtu et roué de coups, laissé à moitié mort, c'est notre humanité perdue, attaquée par Satan. miné par le péché et qui meurt spirituellement et qui a besoin d'être secouru. Les deux religieux symbolisent ce monde qui détient la loi de Dieu, qui a reçu les promesses de Dieu, mais qui lui-même, et malgré ses bonnes intentions, ne peut venir en aide et libérer de son péché l'humanité perdue et mourante. Le bon samaritain, c'est symboliquement, vous l'avez compris, spirituellement l'image de Jésus, voyageur sur la terre, qui s'approche par amour de l'humanité mourante et spirituellement perdue. Et là, il vient au secours de celles et ceux qui l'ont rejeté. Il guérit et soigne les blessures, il paye sa dette, il paye la dette de l'homme mourant, et promet de revenir, le retour de Jésus. C'est l'exemple que nous devons suivre. Et c'est par amour pour chacun de nous que Jésus, vous le savez, a quitté la gloire de son ciel, il a quitté sa royauté, il s'est fait homme pauvre pour s'approcher de l'humanité perdue et prendre sur lui le poids de nos péchés. Comme l'homme de la parabole serait mort sans l'intervention du bon samaritain, nous serions spirituellement morts et condamnés sans le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix. Vous savez, Jésus le dit clairement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 19. Oui, Jésus l'affirme, l'amour est d'abord sacrifice. L'amour, c'est un sacrifice. Matthieu 16, verset 24, « Si quelqu'un, dit Jésus, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, sacrifice, qu'il se charge de sa croix, sacrifice, et me suive, sacrifice. » Bien sûr, Jésus ne nous demande pas de mourir physiquement sur le bois comme lui, mais par notre union avec Jésus-Christ, nous avons été libérés de l'esclavage de la peur, de l'esclavage de l'indifférence, de l'égoïsme qui nous empêche de nous approcher de l'autre. Alors des fois on se dit, mais c'est quoi renoncer à soi-même ? Renoncer à soi-même, ce n'est pas délaisser sa famille, vendre tous ses biens, ne plus avoir de vie personnelle, non, c'est pas tout ça. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce qui fait obstacle entre Dieu et nous. Face à un choix, c'est toujours choisir Dieu Jésus. Voilà, renoncer à soi-même. Porter sa croix, c'est accepter les conséquences de nos choix de suivre Jésus. Ça peut être les moqueries, ça peut être les persécutions. Et frères et sœurs, ceci est un combat qu'il faut renouveler chaque jour par notre union avec Dieu. C'est un combat difficile à mener. Alors, vous savez, je suis en retraite depuis 4 ans. Mais avant, je travaillais à Flavigny comme kiné, et j'avais un chef qui avait fait, je pense, sa scolarité chez les prêtres. Et chaque fois qu'il me voyait, il me disait, « Tiens, voilà le bon Samaritain Courtin. » Je m'appelle Courtin, hein, voilà. Il disait, « Tiens, voilà le bon Samaritain Courtin. » Alors ce matin, comme l'a fait Jésus, j'aimerais vous raconter l'histoire authentique du bon Samaritain Courtin. Sur la route qui va d'Aillecourt à Vendeuvre, nous nous rendions, Wardia et moi, en voiture, au culte qui débute, comme vous le savez, à 10h. Ce matin-là, je devais apporter la prédication à l'église et nous n'étions pas particulièrement en avance, comme c'est le cas souvent. Voilà. Soudain, alors que nous venions juste de dépasser le supermarché Leclerc, Wardia me dit, tu t'en souviens ? Daniel, je viens de voir sur le parking du fleuriste, Mougenot, un homme qui n'avait pas l'air bien. Qu'est-ce qu'elle me dit ? On n'est pas en avance, je suis focalisé sur ma prédication, je m'écris, non mais ça ne va pas, Ward, on va être en retard. Alors, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je réagis comme le prêtre et le lévite. Ma priorité n'est pas d'être le prochain de cet homme qui n'est pas bien sur le parking, mais c'est d'arriver à l'heure au culte, hein, pour apporter une prédication pour Dieu. Alors je continue à rouler, mais vous connaissez cet adage populaire qui est non biblique, je le dis bien, « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Wardia était tellement persuasive, avec des arguments d'une telle justesse, hein, tu connais Kevin, j'ai dû capituler. Alors, nous avons fait demi-tour, et en réalité, il n'y avait rien d'anormal, il n'y avait rien de mal. Mais par contre, cette aventure a révélé l'état de mon cœur, qui n'était pas prêt à s'approcher de l'homme en détresse. Et ça m'a fait quelque chose, ça m'a perturbé. Frères, sœurs, c'est un combat permanent de l'esprit contre la chair que de sacrifier ses propres intérêts par amour pour l'autre. Par exemple, venir au culte et donner au mendiant qui tend la main. Venir rendre gloire à Dieu et pardonner à celui qui m'a offensé. Aller vers celle ou celui qui me dit jamais bonjour et ne m'accueille jamais. Et je répète, l'amour est sacrifice, l'amour est choix et don de soi-même. Voilà, frères et sœurs, j'ai toute une grande partie de ma famille qui est là. S'il est bien un lieu où l'amour du prochain est plus difficile à exercer, mais où il prend toute sa valeur, c'est le couple. Et là, ce matin, je ne vais pas pouvoir dire n'importe quoi. Vous voyez, je suis sous surveillance. Alors je vais aborder cette partie difficile et périlleuse en tant qu'homme déjà, et avec ma vision de mari, donnant au passage quelques exemples personnels. Je prends bien conscience que ce n'est qu'un témoignage personnel et que vous puissiez ne pas être entièrement d'accord avec moi. Et comme c'est le 14 juillet, ben je fais ma petite révolution personnelle, mais rassurez-vous, je vais essayer de rester biblique. Et Dieu créa la femme. Pourquoi ça vous fait rire? Pourquoi ça vous fait rire? Et Dieu créa la femme. Vous savez, au tout commencement, l'homme était la seule créature humaine que Dieu ait façonnée de ses mains. Il était le seul responsable de la gestion de la création divine. Comme l'homme s'ennuyait profondément dans ce lieu pourtant paradisiaque, malgré la multitude d'animaux, Dieu comprit qu'il n'était pas bon que l'homme restât seul. Alors il envisagea de créer pour lui une aide et une vis-à-vis. Il plongea Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes et créa cette divine et ravissante personne qu'est la femme. Et Dieu créa ainsi la femme. La côte, hein, Huguette. Rappel. À partir de ce jour béni, frères et sœurs, le mari dans le couple n'a plus jamais eu l'occasion de s'ennuyer. Vous êtes d'accord, messieurs? On ne s'ennuie plus maintenant. On n'a plus les moyens de s'ennuyer. Quand on est jeune et célibataire, qu'on soit homme ou femme, on croit bien souvent que le mariage va régler tous les problèmes. Ce qui est en partie vrai, car à deux, on peut plus facilement porter et partager ses soucis. Mais en réalité, chacun dans le mariage vient et apporte ses propres problèmes, ses propres blessures, son ego, mais aussi ses différences culturelles, éducatives et bien sûr identitaires, ce qui complique la relation. Tout d'abord, et ce que chaque époux et épouse devrait savoir et comprendre, c'est qu'une femme n'est pas un homme au féminin, et vice-versa. Une femme et un homme sont des êtres différents dans leur constitution, dans leur morphologie et leur psychologie, sentiments et attentes. Ils sont une seule chair, mais deux êtres différents, totalement différents. Alors, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, une femme, et c'est inconcevable pour l'homme, peut éprouver le besoin de parler de ses problèmes pendant une finale de la Coupe du Monde de football, dans laquelle joue la France. Totalement inconcevable pour l'homme. Et franchement, quand Wardia me dit « Daniel, on pourrait discuter... » Non, il y a le match. Pour la femme qui parle de ses problèmes à son mari, eh bien, il est donc inconcevable pour elle qu'il apporte des solutions. Tu ne m'écoutes pas. Ou qu'il limite la discussion à un quart d'heure. Moi, en un quart d'heure, j'ai tout compris. J'ai trouvé toutes les solutions. Mais qu'est-ce que me dit Wardia? Mais tu me frustres. Inconcevable pour la femme qui a besoin de parler et d'être écoutée. On est bien différents. Dans le couple, nous venons aussi avec notre propre caractère. Personnellement, et j'en ai pris conscience, lorsque j'ai un conflit avec Wardia, moi j'ai deux attitudes. Spontanément, d'abord je grogne, comme vous savez, un chien à qui on a retiré son os, et vous savez que c'est dangereux de retirer un os à un chien quand il est en train de le rogner. Et c'est ma façon à moi d'exprimer mon mécontentement. C'est un comportement charnel que je tiens certainement de l'enfance. Puis je boude. Je boude. Comme l'ours, je me réfugie dans ma caverne, mon bureau, et je refuse d'aller plus loin dans la discussion. Je ne veux pas aborder le conflit, discuter, je boude. Inutile de vous dire que ça, ça ne plaît pas à Wardia. Wardia, elle, ce n'est pas un caractère animal, mais plutôt géologique, vous voyez. C'est le volcan méditerranéen, type Etna que Carmela connaît bien. Vous voyez, un petit peu Vésuve, Stromboli, hein, qui sont en ébullition en ce moment. Alors, c'est vrai, quand ça entre en éruption, c'est assez rare, mais c'est puissant. C'est même des fois très puissant. En réalité, je suis béni car étant célibataire, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne une femme de caractère. Et Dieu m'a exaucé au-delà de mes demandes. C'est une femme de caractère qui a, je le concède, bon caractère, mais de fort caractère. Alors, puisque dans le couple, nous sommes spirituellement un, toutes ces différences peuvent user, eh bien, cette belle unité et les conflits la mettre à mal. Bien sûr, le feu initial, vous savez, l'amour qui habite en chaque marié va permettre au couple de préserver l'unité. Mais jusqu'à quand ? Combien de temps ? On écoutait récemment à la radio avec Wardia une chanson mais qui m'a très très interpellé. Et voilà les paroles de cette chanson. Même les divorcés se sont un jour aimés. Ah, moi ça m'a... C'est vrai, même les divorcés se sont un jour aimés. Frères, sœurs, aimer son conjoint comme soi-même, celui ou celle que Dieu a voulu pour moi, qu'il a mis à mes côtés, ce n'est ni avec des bons sentiments, ni avec des techniques de yoga ou de relaxation qu'on y parvient, mais avec des engagements spirituels profonds, persévérants et continus. C'est un combat constant dans le couple que d'aimer son conjoint comme soi-même. D'ailleurs, le « comme soi-même » pose bien souvent un réel problème de compréhension. Ce commandement s'adresse en réalité s'adresse uniquement à celles et ceux qui ont décidé de suivre Dieu, puisque ce commandement est précédé de « tu aimeras ton Dieu ». Le sens profond de cette expression signifie « aime l'autre comme tu t'aimes toi-même, à la même hauteur, dans le même soin et le même respect que tu te portes à toi. Ne fais aucune différence entre toi et l'autre, comme Jésus ». Alors le problème se pose pour celles et ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas dans leur enfance reçu un regard positif, bienveillant de la part de leurs parents, à qui on n'a peut-être jamais dit « je t'aime ». Ce que je vais dire maintenant s'adresse aux chrétiens qui vivent cette situation. De la même façon que l'on croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'en croyant de tout son cœur, nous recevons la vie éternelle, de la même façon nous croyons qu'en ouvrant notre cœur à Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures, spirituelles, et nous pouvons nous écrier, Romains 8,15, « Abba Père, Papa ». Maintenant nous avons un Papa. Nous avons humainement été rejetés par nos parents, mais nous sommes spirituellement accueillis par Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu l'amour humain, mais nous avons de la valeur aux yeux du Dieu souverain. Car Christ est mort par amour pour nous. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes sous le regard bienveillant de celui qui nous a aimés le premier et plus que lui-même. Alors c'est vrai, j'ai bien conscience que ce ne sont pas toujours des choses faciles à réaliser. Mais on a des personnes qui peuvent aider dans l'Église. Et je fais un petit peu de pub pour En Chemin. C'est vrai que tous ceux qui se sentent mal aimés, qui ne s'aiment pas soi-même, eh ben, peuvent faire avec en chemin ben, un bout de chemin. Frères, sœurs, celle ou celui qui veut pratiquer l'amour du prochain dans son couple ne peut pas s'appuyer sur ce slogan « Je suis chrétien, alors tout se passera bien ». Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça. C'est par un engagement individuel, puis à deux, que se bâtissent notre couple et notre vie sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Nous devons, me semble-t-il, nous engager sur 5 points essentiels que je n'aurai hélas pas le temps de développer ce matin. Éphésiens 5, 2, voilà sur quoi nous devons vraiment nous engager. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Voulez-vous être acteur de cet amour dans votre vie, dans votre couple? Est-ce que vous voulez vraiment ça? Alors par amour pour le prochain, pour notre conjoint, pour le couple, fondons notre relation sur le roc qu'est Jésus-Christ. C'est important. Pour cela, 3 versets clés, Ecclésiaste 4, 12, 1 Jean 4, 8 et Romains 5, 5. L'image de la corde à deux brins est celle du couple, qui peut céder à tout moment, se rompre sous les charges. La corde à trois brins, c'est la présence de Dieu qui solidifie le couple et le rend fort. 1 Jean 4, 8 nous dit que Dieu seul est amour et à l'origine de l'amour vrai, authentique. C'est donc en Dieu seul que nous pouvons venir puiser l'amour pour l'autre. Et puis Romains 5, 5, c'est Dieu qui, par son esprit, le déverse dans nos cœurs lorsque nous avons une relation spirituelle avec lui. L'amour du Christ qui nous permet de nous aimer dans le couple. Aimer son prochain comme soi-même, c'est s'enraciner dans une relation profonde en Christ et encourager l'autre à faire de même en priant pour lui ou pour elle. C'est important d'avoir un couple fondé sur le Christ. Deuxièmement, aimer son prochain, c'est d'avoir des convictions solides et respecter l'autre dans toutes ses différences. Pour cela, encore 3 versets clés. Nombre 30, verset 3, Jacques 5, 12 et Jean 17, 21. Nombre 30, verset 3. Vous savez, lorsque je me suis engagé dans le mariage avec Wardia le 30 mai 1990, c'est devant Dieu, devant l'Église, c'est devant notre famille, devant les hommes que je l'ai fait. Vous savez, Jacques Brel, vous connaissez tous Jacques Brel, qui était un grand chanteur, il avait eu plusieurs épouses dans sa vie et il disait « Je suis toujours sincère au moment où je prends un engagement ». Le vrai amour, le vrai respect, le véritable engagement ne consiste pas à être sincère le jour où je m'engage, mais à aller jusqu'au bout de mon engagement. Je promets de lui rester fidèle dans les bons comme les mauvais moments. Dans le couple, l'ennemi de nos âmes et de nos vies, vous savez, à moi, il m'impose personnellement une lutte perpétuelle. Dans les mauvais moments, quand Wardia, avec Wardia, c'est plus difficile, eh bien, quand c'est même assez tendu, eh bien, j'entends toujours cette petite voix lancinante qui me dit « C'est ça, la femme que Dieu t'a donnée ?» Jamais, mes amis, jamais, frères et sœurs, je n'ai cédé ni à cette pensée, ni prononcé ces mots. Au contraire, dans le plus fort de mes tensions avec Wardia, j'ai toujours dit « Merci Seigneur, gratitude pour l'épouse que tu m'as donnée. » Et Wardia, je pense, a fait le même, parce qu'elle est toujours avec moi. Je crois que c'est Dieu. Oui, je crois que c'est Dieu qui m'a donné Wardia. L'ingratitude, parler de séparation, c'est mépriser Dieu qui m'a donné Wardia. Et c'est ouvrir la porte de la désunion, c'est aussi planter dans le couple des racines d'amertume. Aimer, c'est respecter l'autre dans ses différences, c'est l'aimer tel qu'il est, mais dans un respect mutuel. Si parfois, avec Wardia, nous ferraillons, vous savez, au combat, jamais nous nous en de mots grossiers l'un envers l'autre, d'insultes ou de violences. Proverbe 27, 17, « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Les conflits dans le couple peuvent le faire grandir, si le conflit s'exerce dans le respect, le pardon mutuel et la réconciliation avant le coucher du soleil. Troisièmement, aimer son prochain dans le couple, c'est s'engager à changer. C'est la sanctification. Aimer l'autre, c'est changer. Parce que le Saint-Esprit va nous changer, ce n'est pas nous qui nous changeons, mais on peut refuser de changer. 2 Corinthiens 3:12. Nous sommes transformés en l'image de Jésus dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Ce n'est pas notre œuvre à nous. Un proverbe populaire dit « Il n'y a que les idiots qui ne changent jamais ». Frères, sœurs, quand on a pris conscience, parce que l'autre nous l'a dit, que notre caractère, notre façon de vivre, nos blessures passées et parfois anciennes sont un obstacle à l'amour, à la bonne croissance du couple, eh bien, il est plus qu'urgent de changer, d'en prendre conscience et de prier le Saint-Esprit pour qu'il agisse puissamment. Attends, quand j'ai pris conscience que grogner comme un bulldog et bouder dans ma caverne comme un ours, ça blessait Wardia, et ça ne faisait pas grandir notre couple, eh bien, nous avons prié, Wardia et moi, pour que cela change. Quand de même Wardia a pris conscience que ces éruptions volcaniques me blessaient, nous avons prié pour que cela change, et ça a changé. Frères, sœurs, changer par l'amour pour Dieu et pour l'autre, c'est aimer son prochain comme soi-même. Auparavant, je ne prenais pas le temps de discuter, de parler de ce qui me blessait. Je mettais la poussière sous le tapis du salon, vous savez. Les éruptions volcaniques de Wardia me faisaient fuir, et je prenais ça comme prétexte. Aujourd'hui, nous pouvons parler, aborder nos blessures et nos souffrances, nous sommes apaisés. Ni moi ni Wardia n'avions raison ou tort, chacun de nous avait besoin de changer et de se parler. Parler, c'est aimer son prochain. Alors là, je vais dire quelque chose. Chacun dans le couple doit être à sa bonne place. Un verset clé, c'est Éphésiens 5, 23, verset 23, versets 25 et 28. Vous le savez, Dieu est avant tout un Dieu d'ordre et il a donné à chacun une place à respecter dans le couple. L'homme qu'il a créé en premier, dit Paul, est l'autorité du couple, le chef ou encore le responsable. Alors humainement, cette phrase est sujet de conflit, voire de déclaration de guerre dans le couple, et je le comprends fort bien. Personnellement, moi j'avais une mère hyper féministe qui m'a enseigné le respect de la femme et rejeté ce genre de phrase. Ce texte est totalement inaudible si nous le lisons à la lumière des dérives qu'il a entraînées dans les siècles passés, où l'homme a utilisé ce titre de chef pour se comporter en tyran, humiliant sa compagne qu'il a réduit au rôle d'esclave. Ce n'est pas du tout dans cet esprit que Dieu a instauré cet ordre. Il ne peut y avoir deux chefs en même temps. Dieu a décrété que ce serait l'homme. Mais il a rajouté aussitôt, le mari doit protéger et chérir sa femme, se sacrifier pour elle à l'image de Jésus qui a donné sa vie pour l'Église. Le mari est de ce fait le roi serviteur, au service de son épouse, de son couple et de sa famille. Vous voyez que dans ces conditions, ce n'est pas aussi marrant que ce qu'on avait dit avant. Hein, dans ces conditions, être responsable est un rôle qui devient difficile. C'est le rôle de l'épouse d'encourager le mari à prendre ses responsabilités et de ne pas les fuir, et l'aider dans sa tâche. Hein, c'est marqué dans la parole, je lui donnerai une aide semblable à lui. Frères, sœurs, je le dis sans flatterie, Wardia a toujours été pour moi une aide sans laquelle je n'aurais jamais pu accomplir mon ministère d'ancien et mon rôle de père. Je le dis, heureusement qu'elle était là. Jamais, à mon souvenir, je n'ai pris une décision seule, mais toujours avec son accord. Toujours, nous discutons ensemble pour prendre des décisions. C'est précieux de chercher à deux un compromis. Aimer l'autre comme soi-même, c'est l'aider à prendre la place que Dieu lui a donnée. Puis je terminerai là-dessus. Cinquièmement, dans le couple, il faut créer le nous. Le nous. Chacun dans le couple vient avec son ego, ses attentes, sa culture familiale, ses hobbies, qu'il faut changer et modeler. Mais tout n'est pas ni mauvais ni péché. mais ça marque nos différences. Par exemple, aimer le foot, c'est pas un péché, mais c'est à maîtriser. Il faut maîtriser. On ne peut pas regarder du foot toute la journée, tout le temps. Nous pouvons garder un jardin personnel si nous créons dans le couple le « nous ». Le « nous », c'est créer un espace de désir commun au couple. Il faut là encore discuter. Certes, je ne peux pas obliger Wardia à aimer le foot, ni elle m'obliger à faire les magasins. Mais on peut construire ensemble un « nous » qui convient à chacun et laisse marginal notre jardin personnel. Vous savez, le « nous », il est quand même large et varié, hein, à moins qu'on n'ait aucun point commun en rien. Mais nous aimons, Wardia et moi, voyager, aller au restaurant, garder nos petits-enfants, jouer au yams, etc. Ça fait partie du « nous ». Nous avons aussi créé des espaces de discussion. Hein, on se prend les matins un petit café, on se prend un petit apéro, on fait des rencontres programmées, des escapades dans les Vosges. Nous prévoyons ensemble des moments spirituels, prières spécifiques pour l'Église. Nous avons créé avec toute la famille la mission famille chrétienne. Hein, où nous intervenons, Wardia et moi, et nous prions avec toute la famille qui est convertie pour la famille qui n'est pas convertie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a ensemble. Hein, on fait des partages, on s'entraide dans nos ministères. Hein, Wardia fait le repas pour la journée d'anciens. Moi, je l'aide quand il y a en chemin. En construisant et partageant le « nous », on apprend la confiance à l'unité, l'entraide, le soutien, le don de soi-même, et cela soude le couple. Nous trouvons à présent du plaisir à donner dans ce contexte favorable. Nous pouvons nous approcher l'un de l'autre. Wardia me demande de temps en temps si le match était bien. C'est bien. Et je peux trouver du plaisir à l'accompagner de temps en temps dans un magasin. Ça me donne du plaisir. Le « nous », c'est pratiquer la volonté de Dieu, c'est devenir une seule chair, être un en Christ. Le « nous », ça n'empêche pas les conflits, ça n'empêche pas de se confronter, mais ça favorise le pardon. Le « nous », ça crée en chacun de nous, dans le couple, la joie de recevoir, mais plus le bonheur de donner et de se donner en favorisant ce qui nous unit, nous rassemble et non ce qui nous divise. Aimer son conjoint comme soi-même, eh bien, c'est créer le « nous » basé sur le Christ qui s'est donné lui-même. Acte 20, 35. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et ce n'est pas facile. Je vous remercie pour votre écoute attentive. J'ai dépassé, Jean-Pierre ? J'ai dépassé le temps ? Non. Largement.
Largement. Comme d'habitude, t'as largement dépassé.